Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal, François-Xavier de Calonne. Il faut se souvenir que ce professeur est mort pour avoir fait son métier, des mots du secrétaire général de la FSU, 2 ans, jour pour jour, après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, décapité par un homme radicalisé. Benoît Teste sera l'un de nos invités. Un Palestinien blessé hier dans des heurts avec l'armée israélienne en Cisjordanie occupée est décédé ce matin, une annonce du ministère palestinien de la Santé. Des milliers de Tunisiens ont manifesté hier contre la politique du président Kais Saied. Les manifestants se sont rassemblés à Tunis à l'appel de la coalition des partis d'opposition. Le mouvement de contestation se poursuit en Iran, un mois après la mort de Mahsa Amini, 3 jours après son arrestation pour un voile jugé mal porté. Une marche contre la vie chère et l'inaction climatique ce dimanche après-midi à Paris, une action à l'appel de la NUP. Nous y reviendrons avec Bali Bagayoko, chef de file de la France Insoumise à Saint-Denis. Il était l'invité de Pluriel ce week-end. Le 61e anniversaire demain du massacre du 17 octobre 1961, le massacre de centaines d'Algériens en plein Paris. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce dimanche à 19h est Patrick Le Yarrick. Il publie Les raisons de la guerre en Ukraine pour une sécurité humaine globale aux éditions de l'Humanité, extrait dans votre édition. Cela fait aujourd'hui 2 ans l'assassinat de Samuel Paty. Le 16 octobre 2020, ce professeur d'histoire-géographie était décapité par un jeune Tchétchène radicalisé de 18 ans à la sortie du collège dans lequel il enseignait à Conflans-Sainte-Honorine. Le ministre de l'Éducation a participé hier à une cérémonie à la Sorbonne consacrée au professeur assassiné pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. 2 ans après cette tragédie, entretien avec le secrétaire général de la FSU, Benoît Teste.
Nous n'oublions pas, et il ne faut pas oublier, il faut commémorer au sens où il faut se souvenir qu'un professeur est mort pour avoir fait son métier, finalement, et en lien avec des forces obscurantistes qui veulent faire taire le savoir, la transmission, et que je crois qu'on est tous ensemble à vouloir combattre. Donc nous, notre message, c'est effectivement qu'il faut se souvenir pour avancer et pour que ça ne se reproduise pas. Il y a eu des choses qui ont été faites depuis, sur la protection des personnels notamment, mais peut-être sont-elles encore à approfondir. Et puis, il y a tout un travail, évidemment, il est fait au quotidien, d'information, d'éducation, de citoyenneté, d'explication. Je crois que ce travail-là, il faut le continuer. Donc, il y a ce message-là. Et évidemment, ce qui nous inquiète aussi dans la période, c'est la récupération par l'extrême droite de cette commémoration. On voit qu'il y a des surenchères qui sont faites autour de l'idée qu'il y aurait une menace généralisée, non pas des forces obscurantistes dont je parlais, mais de l'islam en tant que tel. Et ça, c'est extrêmement inquiétant parce que justement, comme on l'avait dit au moment de la mort de Samuel Paty, ce dont on a besoin, c'est au contraire de cohésion. Et on a besoin de tout le monde, y compris des musulmans, dans cette lutte contre l'obscurantisme. Et donc c'est aussi ce message qu'on veut rappeler, et ça n'est pas le message que porte l'extrême droite. Et pour le coup, on est assez inquiet de la manière dont ça peut tourner. Mais on a évidemment à faire, nous, tout un travail en ce sens, quoi, hein, d'information, d'éclairage, de conscientisation, de citoyenneté et de cohésion nationale.
Voilà. Et vous constatez que la très grande majorité des musulmans répondent présents face à cela?
Bien sûr, ça c'est un constat qui rassure et qui fait chaud au cœur parce que on voit que nous partageons le même combat et que évidemment qu'il y a une compatibilité, comme on dit, entre l'islam et les valeurs de la République. Et tout ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut continuer à dire, continuer à travailler. On le constate au quotidien, effectivement, dans nos classes. Il n'y a pas d'incompatibilité, il n'y a pas de montée généralisée d'opposition à la laïcité. Il y a toujours à reprendre ce débat, ce travail en bonne intelligence pour vivre ensemble tout simplement, et effectivement c'est un combat qu'on doit faire partager à toute la population.
Et l'ensemble des fédérations musulmanes avait bien entendu rendu hommage à Samuel Paty.
Et on l'avait noté avec plaisir parce qu'en plus les courriers qui avaient été envoyés étaient dans un ton particulièrement juste, je crois, hein. C'était des messages à la fois de solidarité avec la profession enseignante qui sont toujours nécessaires, et puis des appels à la cohésion nationale. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut continuer à travailler et à creuser.
Dans ce contexte, le ministère de l'Éducation nationale a récemment recensé 313 signalements en septembre pour des atteintes à la laïcité dans les écoles, collèges et lycées, avec une hausse des incidents notamment liés au port de tenues religieuses. Comment accueillez-vous cela ?
C'est vrai que c'est une question complexe, hein, qu'on essaie de manier avec grande prudence et avec beaucoup d'équilibre. C'est une question qui divise souvent les professions sur ce qu'il faut accepter ou pas, sur la manière dont on accepte ou pas, etc. Nous, on essaie d'avoir une position très équilibrée sur ce sujet et on est souvent très critique vis-à-vis du ministère, mais on trouve que, pour le coup, la réaction de Pape Ndiaye est la bonne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se voiler la face sur l'existence d'une idéologie religieuse intégriste qui essaie d'occuper certains espaces. Et donc il y a incontestablement une forme d'offensive idéologique de certains milieux. Donc on constate une recrudescence de certains signes ostensibles dans les classes. Donc ça c'est un fait, c'est pas un phénomène qui submerge non plus l'Éducation nationale. Il faut pas exagérer les choses à chaque fois, il faut rester proportionné parce que c'est la réalité. Hein. À cette rentrée, l'Éducation nationale, l'école n'est pas submergée. Mais il y a une recrudescence incontestable, sous la forme effectivement plutôt des abayas, des jupes longues, etc., qui sont pas tout à fait d'ailleurs la même chose que les voiles ou encore d'autres signes religieux. Donc là aussi, il faut regarder au cas par cas ce que ça signifie. C'est aussi une manière d'affirmer l'identité. On comprend tout à fait, hein, à l'adolescence, ou quand on partage certaines valeurs, et pourquoi pas finalement, hein, il y a aussi la vie en société, il y a aussi des gens qui ont des options religieuses qui peuvent être ce qu'elles sont. Donc c'est pas en soi des phénomènes graves. Il y a quand même à l'école à respecter cet équilibre qui est de dire on n'a pas de signes religieux ostensibles, on essaye de pas ostensiblement manifester son appartenance religieuse, mais tout ça se fait effectivement dans l'équilibre et en disant bien. C'est pas une submersion, il n'y a pas une augmentation démesurée de ces phénomènes. Et deuxièmement, ces phénomènes ne se traitent pas en disant on va exclure, on va systématiquement virer des écoles tout ce qui peut ressembler à un signe religieux. Ce qu'on fait, c'est du dialogue, c'est si une élève ne souhaite pas enlever un signe religieux, eh bien on voit avec elle pourquoi, on voit avec elle. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des aménagements à sa tenue ? Et puis on discute du pourquoi, du comment, de qu'est-ce qui se passe exactement, de qu'est-ce qu'elle met derrière, effectivement. Où est-ce que je dis elle, d'ailleurs, parce que c'est souvent les filles, mais en réalité, à cette rentrée, il y a aussi beaucoup de garçons hein, qui portent la djellaba, par exemple. Donc voilà, on est dans le dialogue, on essaie de voir au cas par cas aussi qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être aménagé. C'est toujours un équilibre précaire, hein, j'en conviens, parce que on est toujours un peu sur le fil et faut pas non plus laisser se développer des vêtements religieux qui seraient une manière d'identifier chaque communauté dans chaque école et qui au final seraient pas bonnes pour l'ambiance générale. Donc faut pas laisser se développer ces phénomènes-là, mais il faut les traiter avec intelligence et sans stigmatisation. C'est pas simple. On trouve que la position du ministre est relativement équilibrée de ce point de vue-là. C'est à peu près ce qu'il a essayé de dire. Et donc nous, on travaille dans ce sens aussi. Pour travailler aussi à l'apaisement, parce que je pense que on a aussi très honnêtement bien d'autres choses à traiter, parce que l'inclusion scolaire, la lutte contre les discriminations, comment on fait pour avoir une école qui démocratise les savoirs, qui élève le niveau de tout le monde. Et ça, il y a quand même un sacré chantier là-dessus.
Et les sujets que vous évoquez, dont l'inclusion, étaient chers à Samuel Paty, justement.
Complètement. Donc si on veut rendre hommage à Samuel Paty, je pense que le plus intelligent, c'est justement de travailler à cette cohésion nationale et au fait que plus jamais des obscurantistes puissent manipuler des gens pour commettre des assassinats aussi odieux. C'est ça le travail qui nous reste à faire. Et c'est un travail humaniste, mais c'est la seule tâche qu'on doit se donner, quoi.
Le secrétaire général de la FSU, Benoît Test. Des milliers de Tunisiens ont manifesté contre la vie chère et contre la politique du président Kais Saied. Hier, les manifestants se sont rassemblés à Tunis à l'appel de la coalition des partis d'opposition. Ils accusent le président de la République d'être responsable des pénuries et de la forte inflation. Inflation qui a atteint près de 9% sur un an. Hier soir, le Fonds monétaire international a affirmé être parvenu à un accord avec le gouvernement tunisien permettant le déblocage d'un prêt de 1,9 milliard de dollars. Cet accord doit encore être validé par le conseil d'administration du FMI. En échange de ce versement, le gouvernement tunisien s'est engagé sur un programme de réforme. Le mouvement de contestation se poursuit en Iran. Un mois après la mort de Mahsa Amini, trois jours après son arrestation pour un voile jugé mal porté, cette jeune kurde iranienne de 22 ans est décédée le 16 septembre dernier. Des iraniennes et des iraniens sont de nouveau descendus manifester hier pour demander le départ du pouvoir en place. Un palestinien blessé hier dans des heurts avec l'armée israélienne en Cisjordanie occupé est mort ce matin. Une annonce du ministère palestinien de la Santé. Le ministère avait annoncé hier que deux Palestiniens avaient été grièvement blessés par balle lors d'affrontements avec des soldats israéliens dans le nord de la Cisjordanie occupée. Ces violences interviennent dans un contexte de vives tensions en Cisjordanie. Ce lourd bilan après une explosion dans une mine de charbon dans le nord-ouest de la Turquie. Il y a 41 morts et 28 blessés. Les syndicats dénoncent depuis plusieurs années une exploitation effrénée dans les mines au détriment des règles de sécurité. Les partis de la NUP ont défilé ce dimanche à Paris pour dénoncer la vie chère et l'inaction climatique. Pourquoi cette marche ? Bali Bagayoko, chef de file de la France Insoumise à Saint-Denis, il était l'invité de Pluriel ce week-end.
Pour nous, c'est une démonstration de force pacifique, mais déterminée pour faire en sorte que le cap qui est aujourd'hui assumé par le gouvernement change. Et donc, ça va dans l'esprit d'ailleurs de la bataille qui est menée aujourd'hui au niveau des raffineries, parce que en démocratie, il n'y a pas 150 000 ingrédients pour pouvoir corriger les choses. Et dans les éléments qui sont à nos dispositions, il y a la bataille parlementaire qui est faite au quotidien, il y a les mobilisations quotidiennes qui sont dans les lycées, dans les établissements scolaires, dans les universités pour un certain nombre d'entre eux, et il y a bien sûr la rue. La rue est la synthèse, en fin de compte, de l'ensemble des dynamiques que nous pouvons mettre en mouvement pour justement passer un message qui est un message à la fois pacifique, mais déterminé à l'endroit de l'État pour que justement la prise en considération à la fois de l'augmentation du pouvoir d'achat qui a été refusée au moment d'ailleurs où il y a eu le débat d'orientation budgétaire, la nécessité d'augmenter les allocations a été aussi refusée, la question de pouvoir soutenir les services publics ont été refusés. Donc voilà, donc c'est l'ensemble de ce projet de société que nous avons porté, que nous continuons encore à porter après la campagne présidentielle législative, que nous versons dans la dynamique du 16. Les publics qui sont aujourd'hui les plus fragilisés, c'est bien sûr les publics paupérisés, donc souvent issus des quartiers populaires et ruraux, à ne pas oublier, et puis les familles monoparentales, souvent d'ailleurs des femmes. Et donc il faut que l'ensemble de cette communauté de destin s'unisse dans la rue, avec un message qui est un message unanime, qui est juste de dire que nous voulons vivre à la fois, je veux dire, dignement, et nous voulons vivre dans un environnement qui soit un environnement apaisé, un environnement qui respecte à la fois l'environnement dans lequel nous vivons. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a deux messages qui sont vraiment essentiels. La question de la vie chère, mais qui est essentiellement liée au fait que depuis de trop nombreuses années, des inactivités, entre guillemets, je veux dire, en termes d'État, pour pouvoir créer les conditions de réajuster les moyens financiers et de répartir la richesse, n'est pas au rendez-vous. Et donc, c'est ce que nous appelons de nos vœux. Et la deuxième chose, c'est bien sûr que l'État, de ce point de vue-là, la France a été par deux fois sanctionnée par la Commission européenne sur le fait qu'elle n'a suffisamment pas agi pour préserver l'environnement et pour préserver, du coup, des vies. Donc, ce sont ces deux messages-là qui vont de pair, parce qu'il s'agit en réalité d'un sujet de société, qu'il s'agit à la fois, je veux dire, de créer les conditions pour que les jeunes générations ne vivent pas moins bien que la nouvelle génération qui est là aujourd'hui.
Bali Bagayoko, chef de file de la France Insoumise à Saint-Denis, il était l'invité de Pluriel ce week-end, émission présentée par Loïc Barrière. Ce sera demain le 61e anniversaire du massacre du 17 octobre 1961. Des Algériens qui manifestaient pour le droit à l'indépendance ont été tués lors d'une grande répression menée par la police française, répression qui a fait entre 200 et 300 morts selon les historiens. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce dimanche à 19h Patrick Le Yarrick. Il publie Les raisons de la guerre en Ukraine pour une sécurité humaine globale aux éditions de l'Humanité, extrait de cette émission.
En ce moment, on met des sanctions économiques contre la Russie. On dit que c'est un pouvoir autoritaire, dictatorial. Oui, c'est vrai. Mais quand on va négocier en échange un accord pour avoir du gaz russe en Azerbaïdjan, la démocratie ne compte pas beaucoup. Autrement dit, ce n'est pas à l'origine une guerre de civilisation, c'est une guerre à l'intérieur d'un système économique et politique, le capitalisme, avec de part et d'autre des volontés hégémoniques. D'un côté, les Russes qui veulent s'accaparer les matières premières et les belles terres agricoles de l'Ukraine. D'un autre, les États-Unis qui veulent également s'accaparer les ressources minières, mais aussi les terres agricoles. N'oublions jamais que beaucoup de terres agricoles, de bonnes terres agricoles d'ailleurs, en Ukraine, appartiennent à des magnats occidentaux, français, mais surtout nord-américains. À ceci s'ajoute la question de l'énergie, qui est une question extrêmement importante. On est en train de le vivre aujourd'hui. À la fois l'énergie pétrolière, le gaz, avec l'affaire des deux gazoducs qui passaient par l'Ukraine, c'était une demande de Madame Merkel, qui n'était pas dénuée de bon sens, mais aussi, et c'est trop sous-estimé, l'électricité. C'est-à-dire que il y a eu un accord, ce qu'on a appelé le mémorandum de Budapest, dans lequel les Russes ont reconnu la souveraineté territoriale de l'Ukraine, et en échange de cette reconnaissance, dans cet accord de Budapest, il a été prévu que tous les ogives nucléaires soviétiques, donc qui étaient sur le territoire ukrainien, seraient rapatriés en Russie. D'ailleurs, ils ont été rapatriés en Sibérie. Mais dans cet accord, il y avait un alinéa pour empêcher les Ukrainiens de se doter de l'arme nucléaire. Les Russes continuaient à avoir un droit de regard, même un peu plus qu'un droit de regard, sur les centrales nucléaires ukrainiennes. Or, il faut savoir que l'Ukraine, en Europe, a autant de centrales nucléaires que la France.
Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité, il est l'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce dimanche à 19h pour son essai « Les raisons de la guerre en Ukraine pour une sécurité humaine globale » aux éditions de l'Humanité, émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.